pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, c'est Nicolas Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. La locale à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est enregistrée. Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Et bien ce soir, la semaine dernière, je crois, on avait parlé de la répression. Et cette fois-ci, ce n'est pas la répression dont on va parler directement, c'est la défense. La défense par rapport à cette répression. Défense au niveau de la police, mais surtout au niveau de la justice. Il y a des tas de choses à savoir. Alors, pour ça, on a su qu'il y avait des rencontres nationales à Toulouse le 6 et 7 juillet, organisées par Défense Collective de Toulouse. On les a au téléphone, donc ils vont pouvoir nous expliquer leur démarche, de quoi c'est parti, c'est leur organisation de ces rencontres nationales. Allez, vous nous écoutez?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors, racontez un peu comment que ça s'est passé. Pourquoi vous organisez ça, en fait?
Ouais. Mais en fait, si on organise des rencontres nationales, c'est parce que l'objectif, c'est de sortir un petit peu de ce rapport où une semaine chasse l'autre et où on n'arrive pas à réfléchir à un plan de bataille un peu plus général contre la répression. Mais aussi parce qu'on part du principe que d'après les informations qui nous sont revenues, à l'automne prochain, à partir de la fin de l'été, il va y avoir énormément de procès, plusieurs centaines dans toute la France. Et qu'il y a un enjeu à essayer de, en amont, s'organiser afin d'organiser une défense collective à l'échelle du mouvement pour face à cette vague de procès.
D'accord. Oui, de toute façon, oui, à part ceux qui sont passés en comparution immédiate, ceux qui ont refusé la comparution immédiate vont passer, c'est sûr, à l'automne.
Voilà, il y en a aussi énormément qui ne sont pas passés directement en comparution immédiate, mais qui ont eu des convocations pour plus tard. Donc des convocations qui vont arriver, bon, il y en a déjà un peu cet été, mais qui arrivent quand même beaucoup en septembre, jusqu'en novembre, décembre prochain, janvier.
Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit état des lieux sur la masse de gens qui ont déjà été criminalisés et arrêtés, condamnés, incarcérés sur Toulouse?
Ouais, on peut parler un peu particulièrement de Toulouse. On n'a pas les chiffres précis sous les yeux là, mais on a compté une soixantaine de personnes qui ont été incarcérées pour des peines assez longues en général, qui vont de un mois à, on a 3 ans, quelqu'un qui a été incarcéré pour 3 ans. Le nombre d'arrêtés, c'est pareil, je ne l'ai pas exactement en tête, mais on...
Il y en a vu 700, je crois.
Voilà, ouais. on est autour de 600-700 gardes à vue sur les week-ends, entre 15 et 50 interpelles par semaine, quoi.
Ouais, ça donne une sacrée idée de l'ampleur de la répression.
Et avec chaque semaine, suite à ça, en comparution immédiate, bon, ça dépendait des journées. Sur les grosses journées, on avait parfois une dizaine et parfois 4-5. Donc sur 6 mois de manif, ça laisse imaginer.
Oui. Est-ce que maintenant, bon, on va peut-être aborder maintenant le contenu un peu de ces rencontres nationales, le 6 et 7 juillet, qu'est-ce que vous... on a vu sur votre site, effectivement, le programme. ça serait bien de nous dire un petit peu, s'il y a des gens extérieurs qui veulent venir, comment ils font? Ils vous contactent sur le site ou...
Bah, c'est des rencontres assez ouvertes. Après, oui, on peut envoyer un message sur le site pour essayer de voir sur l'hébergement ou comment se rencontre, enfin, ou comment
faire.
Ouais, on peut montrer les papiers en même temps. Ouais, comment faire pour sur une côté pure gestion. Donc le mail, c'est rencontre@riseup.net.
Ouais.
Et du coup, voilà, si les gens qui veulent venir, ils n'hésitent pas à envoyer un mail. Ça, c'est spécifiquement, on a créé une adresse mail pour ces rencontres-là. Et après, il n'y a pas besoin de s'enregistrer, quoi. C'est vraiment s'il y a des besoins matériels. On va essayer d'avoir des espaces pour héberger des gens. Voilà, en gros, c'est surtout pour l'hébergement. Et après, en effet, il y aura ce qu'il faut sur place pour accueillir beaucoup de monde.
D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres?
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Surtout, pas, ouais, j'ai bien entendu tout à l'heure, c'est effectivement essayer de créer une défense collective pour tous les procès qui vont avoir lieu.
En fait, c'est un premier pas. On se doute qu'on ne va pas réussir à travers uniquement un week-end comme ça à organiser l'ensemble de ce sur quoi il faudrait qu'on avance en matière de défense à l'échelle de ce mouvement. D'autant que, par exemple, aujourd'hui, il y a très peu de villes dans lesquelles la structure défense collective des Gilets jaunes, elle est... Ça marche encore ? Ouais. La structure défense collective des Gilets jaunes, elle existe. Excuse-moi, mais là, ouais.
On t'entend bien.
On t'entend bien.
Donc, pour l'instant, c'est déjà se mettre en lien et arriver à être... avoir le plus de liens possible avec le plus de groupes de Gilets jaunes. Et surtout, d'ailleurs, c'est cette idée de poser cette question au mouvement. C'est-à-dire que, pour l'instant, ce qu'on a constaté... c'est que soit cette question elle avait été prise en charge dans un cas minoritaire par des groupes tels que la Défense Collective de Toulouse, soit il y a évidemment des gens qui se sont organisés au moins pour du soutien à leurs amis, à leurs proches, mais enfin il y a énormément de situations de délégation, à notamment où on laisse uniquement soit les associations citoyennes, soit les avocats en fait avoir le monopole d'une parole de la défense, là où il nous semble que c'est en complète contradiction avec l'esprit même de ce mouvement qui, depuis le début, s'organisait sans représentant.
Oui,
donc l'idée, c'est de commencer à une auto-organisation de la défense, quoi, tout simplement.
Et réfléchir à une défense un peu offensive aussi, éventuellement sur la question des procès en eux-mêmes, mais également sur des potentielles actions qui pourraient être mises en place autour de cette question de la répression et de la défense, quoi. Et du coup, peut-être qu'on peut... dire en quelques mots ce qui a été prévu pour comme discussion autour de ça.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, oui.
Du coup, le samedi, en fait, la grosse discussion, ce sera de 14h à 17h. Et l'idée, en fait, c'est de parler de tout ce qui est défense collective. Donc, comment on fait collectivement pour reprendre en main son dossier, essayer de le travailler ensemble. Et toutes les questions autour de la défense de rupture, de l'abandon de la défense de profil, avec un gros rapport aux avocats qui à chaque fois nous poussent et nous isolent dans ce genre de situation. Et ensuite, pareil, le dimanche, la grosse discussion plénière, ça sera vis-à-vis du soutien aux prisonniers, mais aussi de toute la question sur est-ce que on s'organiserait autour d'une lutte, est-ce qu'on demanderait l'amnistie, ça nous convenait pas, la question d'une liberté, et toujours essayer de voir ce lien dedans-dehors, même si pour l'instant, il n'y a pas énormément d'organisation ou de défense à l'intérieur. Dedans-dehors et aussi à l'intérieur, entre les différents prisonniers, qu'ils soient vivés ou non, quoi.
Alors, justement... Est-ce que tu pourrais préciser ce que vous entendez par défense de rupture? Parce que pour nous, ça a une signification historique avec le mouvement, notamment la répression en Italie. Hein, les défenses de rupture, je pense que c'est là un petit peu qu'elle a pris naissance, en tout cas dans cette période-là. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que vous y mettez derrière?
Alors, on y met... plein de choses sans vraiment le définir. C'est un peu aussi l'idée de ces rencontres, d'en discuter, quoi. On voulait voir aussi ce qui avait pu exister, justement, notamment les exemples que tu cites, et est-ce qu'il était possible de se réapproprier dans le mouvement Gilets jaunes. Est-ce que, en fait, on a plein de questions qu'on a envie de poser ensemble pendant ces rencontres-là. On n'a pas de choses prédéfinies, mais bon, c'est quelque chose qui a, on peut dire, un peu été abandonné tel qu'il était à une certaine époque défendu, la défense de rupture, mais on se dit qu'en tout cas, entre la défense de connivence et la défense de rupture, des milliards de manières de se défendre et d'être quand même offensif, et c'est comment on peut réfléchir à toutes ces manières-là et éventuellement voir ce qui est le plus adapté pour le mouvement et comment... comment on peut récupérer cette idée de se défendre et d'être malgré tout offensif.
Par exemple, juste pour essayer de préciser, dans le mouvement Gilets jaunes, il y a pas mal de gens qui sont mis en avant par les médias, notamment, et qui sont criminalisés de cette manière-là. Alors, est-ce que ça serait préconiser, par exemple, l'anonymisation des situations? Parce que c'est pas très facile de soutenir des gens quand ils sont de faire une démarche de lutte collective quand les gens sont anonymes. En tout cas, c'est un peu notre sentiment ici sur ce.
De quoi tu parles? Tu parles des figures du mouvement un peu?
Eh ben, c'était un exemple parce qu'en fait, les médias qui utilisent, qui tirent à boulet sur le mouvement Gilets jaunes. Souvent, ils stigmatisent des personnes,
oui.
Des personnes qui ont été d'ailleurs par ailleurs ciblées au niveau de la répression. Mais la question, c'est de savoir si vous pensez qu'il faut éviter de donner que les personnes soient nommées, par exemple. Les gens, ils ont une histoire, ils ont une histoire de lutte, ils ont une histoire de vie, une histoire de dans la militance ou pas, et ils peuvent s'exprimer en tant que ce qu'ils sont, quoi. Tu vois, et pas forcément être anonyme, parce qu'on a vu des procès, où les unes et les autres étaient anonymes, quoi. Et moi, personnellement, ça, je trouvais ça gênant, quoi.
Après, l'idée, c'est pas forcément de donner des directives sur est-ce qu'on s'anonyme, anonymise, ou est-ce qu'il y a des personnages mis en avant. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas forcément d'attache. Mais par contre, se dire que plutôt sur les chefs d'inculpation qui sont généralement mis en avant par le tribunal, on y est tous, quand on y était tous, on est tous malfaiteurs, on est tous participants à un groupement, et c'est plus rendre la chose collective, quoi. Oui, en effet, la justice est là pour isoler, mais nous, de l'autre côté, on
assumer collectivement les actes. Voilà. Ouais, d'accord.
Oui, d'ailleurs, à une époque, je me souviens d'un certain nombre d'autres combats, on demandait de se faire inculper avec les personnes. Pour avoir fait les mêmes choses qu'eux.
Ah ouais.
Et ça a été, ça a foutu la merde à un moment donné. Sur Reims, on l'avait fait pour une question de
fichage.
Le fichage. Certains d'entre nous avaient été arrêtés parce qu'ils avaient distribué des tracts demandant à la population d'aller au commissariat pour se ficher. Et ça avait fait un bordel pas possible. Et à cette époque-là, ils avaient inculpé, ils avaient piqué deux ou trois personnes qui distribuaient ces tracts dans les boîtes aux lettres, et ces personnes avaient lancé donc l'idée de faire un truc collectif et de demander à être inculpés parce que tout simplement ils avaient eux aussi distribué les tracts dans les boîtes aux lettres, et ça avait relativement bien marché, ça avait foutu la merde d'ailleurs. Ils se demandaient à la justice comment ils allaient faire pour ne pas convoquer ces gens-là et comment expliquer pourquoi ils ne convoquaient pas ces gens-là qui se dénonçaient, quoi. Ça avait été, voilà, bon, bah, c'est tout, hein. C'est un exemple parmi d'autres de défense collective.
Juste, moi, je voulais revenir un peu quand même sur la question du contexte et du rapport avec cette histoire de parole dans le fait d'organiser une défense de rupture. C'est que, déjà en premier lieu, sur l'origine du terme défense de rupture, pour nous, en tout cas, il nous semble qu'il est... à chercher notamment dans dans un écrit de Vergès qui s'appelle la stratégie judiciaire. Et en effet, nous on considère que aujourd'hui il y a un enjeu qui est aussi de l'ordre de la lutte dans le fait de organiser cette, cette défense. C'est-à-dire que, et de réfléchir ensemble à une parole publique. C'est-à-dire, je vais donner quelques exemples, qu'aujourd'hui, la machine juridique, c'est une machine qui vise à écraser les gens, mais aussi à les faire, à leur faire accepter le rôle dans lequel elle les met. C'est-à-dire des personnes qui sont jugées par rapport, qui doivent commencer souvent par s'excuser. Qui, et en fait, il y a quelque chose dans le rapport à la lutte que nous, on essaye de poser, qui est le fait de faire une campagne générale pour dire que on avait raison de lutter, on a raison de lutter, qu'on peut, qu'on était énormément dans la rue, que c'est une répression massive contre un mouvement qui était d'ailleurs très soutenu, et que il faut, on n'a pas du tout ni à s'excuser ni à baisser la tête, au contraire. Et juste à mettre, c'est pour nous aussi à mettre en relation avec un moment où on a un pouvoir qui, même si c'est l'étalage d'une répression très importante, est relativement faible, et qui est d'ailleurs tellement faible qu'il n'est pas, qu'il n'a pas les moyens, par exemple, de condamner quelques policiers, parce que ça serait une preuve de, comment dire, le pouvoir aujourd'hui, il est dans une situation où lorsque les policiers déclarent, alors que ils ont, il y a énormément de vidéos comme quoi ils ont fait une, toute une série d'exactions durant les manifestations, lorsque ils sont capables de faire du chantage au pouvoir en disant, nous, il y a eu une affiche de Alliance qui était sortie, qui était extrêmement parlante, qui disait, en gros, faites attention, on est vigilant, si vous condamnez l'un d'entre nous, ça va mal se passer pour l'État. Et on a un État qui, aujourd'hui, est dans une situation où il n'est pas capable de, on va dire, de maintenir une espèce de logique démocratique du maintien de l'ordre. C'est-à-dire un maintien de l'ordre qui dit, regardez, il y a des policiers qui peuvent être des brebis galeuses. Non, là, l'État est obligé de pratiquer une logique de maintien de l'ordre qui est uniquement répressive. Et dans ce cadre-là, c'est un enjeu aussi d'augmenter encore le niveau de défiance de la population envers cet État en s'organisant en face et en faisant une campagne de solidarité collective.
Et après, un des principes un peu sur lequel s'est montée la défense collective à Toulouse, c'est l'idée de dire que en fait, la répression, tout le système répressif, c'est une machine. Et que plus on sera à essayer de l'enrayer, mais c'est un peu dans le sens de l'exemple que tu donnais, quoi. Plus on sera à essayer de l'enrayer et à ne jamais faciliter cette machine-là, plus ce sera possible d'avoir une force et de se défendre aussi dans ce sens-là, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Mais en lisant plutôt un certain nombre de documents que vous avez publiés sur votre site, je me suis dit, c'est dommage que finalement on n'a pas pensé au niveau national et de faire tous les ronds-points sur un certain nombre de choses qui sont incontournables. Quand on reçoit une convocation, ben effectivement, on se pose le problème, les gens se posent le problème, que faire. La plupart des temps, ils y vont. Chez nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Chaque fois qu'il y a eu une convocation, il y en a certains qui y sont allés, pas d'autres. Pas d'autres, il y en a qui me disent non, c'est pas vrai.
Moi, j'y vais pas, moi.
Par contre, il y a eu aussi le fait que quand on a arrêté, ben, on n'a rien à déclarer. Hein, c'est marqué dans la loi. On a le droit de rien avoir à déclarer. C'est des trucs qu'il faut faire passer, quoi. C'est comme la comparution immédiate. Faut la refuser. Parce qu'effectivement, ça permet déjà de préparer sa défense. Il y a des tas de choses comme ça qui apparaissent pour nous militants comme étant de béaba. N'empêche que c'est normal, c'est logique pour des gens qui la première fois était vraiment confronté à l'État au niveau de sa force répressive, c'est normal que c'est pas été intégré tout de suite, quoi.
Enfin, Denis, tu dis ça, mais il faut quand même dire que dans la région ici, par exemple, il y a des peines très lourdes qui sont tombées et il y avait absolument rien d'organisé pour la défense. Il faut quand même le dire parce qu'il y a quand même une certaine c'est pas méprisant du tout ce que je vais dire, mais une certaine immaturité par rapport politique, par rapport à la violence répressive. Quelqu'un qui a pris deux personnes qui ont pris 18 mois simplement parce que l'un avait parlé de moutons aux flics, et l'autre avait renvoyé un morceau de grenade, quoi, en shootant dedans avec les pieds. Donc, parce qu'il avait des habits noirs, quoi. Donc, on est là dans une situation. Et oui, il y a énormément de travail à faire, quoi.
Il y en a un qui avait 12 mois, un 18 et un 12.
Oui. Mais celui qui avait 12, parce qu'il n'a pas pleuré, on lui a donné 18.
Donc oui, parce qu'il n'a pas baissé la tête, voilà, comme il venait de nous dire. Oui, oui. Oui.
Et j'ai contacté la personne, et elle est, et c'est un gars de Tessie.
Ici, parfois, c'est l'inverse. Hein. C'est pas, il y a pas non plus de bonne stratégie, malgré ce que parfois les avocats veulent te faire dire, quoi, baisse la tête et ça ira mieux. Nous, certains, au contraire, ont gardé la tête haute et ont été moins condamnés que d'autres. Il n'y a pas forcément de.
Oui, malheureusement, malheureusement.
Y a pas après, je pense que c'est un peu l'idée aussi du week-end, quoi, de se dire c'est quelque chose qu'il faut prendre en main, cette défense, et qu'on arrive aussi à diffuser un peu toutes les pratiques qui ont été faites, les bonnes et mauvaises pratiques qui ont été faites partout, mettre en commun un peu le travail de chacun, les textes qui peuvent être diffusés dans les différentes villes. Nous, on a essayé un peu d'aller sur les ronds-points et ça c'était toujours intéressant, ça a plus ou moins marché. Il y a pas tout Toulouse qui s'est mis à rien déclarer en garde à vue, quoi, parce que je pense que c'est quelque chose de long terme, mais c'est aussi quelque chose
qui fait son chemin.
Voilà, qui peut être diffusé. Puis c'est compliqué, en fait. Il y a beaucoup de gens, ils avaient jamais été confrontés même à une garde à vue. Il y a énormément de gens sur les gens qui sont condamnés, qui avaient un casier vierge. Donc, en fait, quand on n'est pas forcément au fait des méthodes des keufs et tout, ben, je sais pas, les gens, ils sont toujours un peu pris au piège et il y avait encore un peu une confiance, je sais pas, dans la police, un peu, tout l'ordre républicain, qui est un peu tombé des nues. Mais là, maintenant, après 7 mois, les gens, il y a énormément de personnes qui disent, bon, ben là, moi, c'est sûr, il m'arrive un truc, c'est je déclare rien. Et effectivement, maintenant, les gens le tiennent, il y a de plus en plus de refus de comparution immédiate aussi. Mais ça a pris du temps, quoi, ça a pris du temps. Du temps où on a passé sur les ronds-points à discuter avec les gens et où ils ont vu leurs potes se faire asmater devant les tribunaux parce qu'ils avaient déclaré que la condamnation elle reposait que sur les aveux, quoi.
Ouais. Tu as des trucs à dire, je crois, non?
Oui, moi j'avais une question. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on perd un FIDO?
Quand on perd?
J'ai perdu mon FIDO, une accréditation pour travailler. Mais sans aucun motif, sans justificatif, sans rien du tout.
C'est le problème. Bon, après, il faut peut-être aller voir un avocat. Nous, on apprend à se défendre entre nous, mais donc on n'a pas forcément des qualifications. Mais par contre, c'est sûr que c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'ils t'opposent systématiquement les secrets défense. Tu n'as pas les possibilités de te défendre parce que tu n'as pas accès à ton dossier. Et que...
c'est que ça dure. C'est que ça dure. Ils se renvoient la balle et on n'en sait rien.
Ouais. Et ben, c'est que tu as certainement... une fiche derrière qui t'a catégorisé comme
gilet jaune.
Moi je crois que bon
gilet jaune qui travaille en zone sensible.
Voilà, donc faut pas hésiter à aller voir un avocat, essayer de le contester, ce genre de choses.
Oui, puis surtout l'avocat, il faut absolument.
Déjà un avocat, mais à mon avis, il faut que ça aille plus vite, plus rapide.
Fallait à mon avis plus loin, il faut que ça soit rendu public ce qui t'arrive. Normalement que ça soit rendu public, conférence de presse, etc. Oui. Quoi. Je crois qu'il n'y a que comme ça.
Que ça avancera. Que
ça fera débloquer.
Parce que pour l'instant, je sais juste que c'est un arrêté préfectoral, c'est tout ce que je sais. Mais j'en sais pas plus, pas moins. Et on renvoie des courriers, on nous répond toujours que c'est un arrêté. Quel motif, je ne sais pas.
Oui,
t'es
encore fiché.
J'ai travaillé septembre, octobre, novembre, décembre, sans aucun souci. Et à partir de décembre, bien sûr, jamais été condamné, jamais été arrêté, quoi que ce soit. Et à partir de décembre, j'ai plus le droit maintenant.
Ouais, c'est certainement l'esprit. Oui, c'est sûr que ça vaut le coup de réfléchir, pour le coup, entre vous. Je ne sais pas s'il y a des groupes de gilets jaunes qui continuent à se rencontrer là-bas, mais en tout cas, ou qui ont le même problème, ou réfléchir ensemble à quoi faire face à ça. Et je pense qu'il y a plein de choses, hein, mais...
D'accord.
On n'est pas des juristes, on s'organise juste face à la répression... collectivement, parce que où on y est passé, où on a des amis, on a tous des proches qui sont passés par là, quoi. Mais du coup, on ne peut pas répondre à toutes les questions juridiques. Après, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, le rapport de force peut toujours aider dans ce genre de situation, quoi.
Très bien, merci. Merci beaucoup.
Ok, écoute, je ne sais pas, on peut peut-être aborder d'autres problèmes que vous auriez. Vous avez édité un truc aussi qui est bien... c'est comment que ça se passe de l'interpellation à la comparution immédiate avec les délais, contrôle d'identité, vérification d'identité, garde à vue, déferment, comparution immédiate, etc. Je trouve que ce truc-là est bien parlant, dirons-nous. parce que
on a essayé de faire des choses un peu le plus visible possible, parce que c'est vrai que c'est on sait ce qui a souvent posé problème, c'est que quand tu arrives en garde à vue, tu sais pas ce qui va t'arriver,
ouais,
tu sais
pas ce qui va t'arriver.
Et surtout la technique favorite des keufs, c'est de te dire que tu vas prendre super cher, etc. Donc si au moins tu as en tête combien de temps ils peuvent te garder et puis toute la procédure jusqu'au bout, je pense que c'est ça qui est important à diffuser un peu, de l'avoir en tête, tu sais à quoi t'attendre, tu sais ce qui peut t'arriver et tu sais à quel moment il faut tenir et combien de temps ça peut durer. Ça permet de... Nous, on faisait des ateliers un petit peu sur Toulouse, on essayait de faire des ateliers de mise en situation, etc. pour que ça soit bien intégré et que voilà, on puisse se défendre aussi à ce moment-là, quoi.
Ouais. De toute façon, la première, pour se défendre vraiment, y compris collectivement, il faut déjà être informé. Ça, je crois que c'est super important.
Et après, ce qu'on s'est dit aussi pas mal, c'est qu'on avait un peu fait le taf d'informer sur de la garde à vue au passage au tribunal. Comment on fait en sorte d'avoir un dossier que nous, on remplit pas nous-mêmes en déclarant, même en répondant à l'enquête sociale. Nous, on conseille toujours aussi d'en donner le moins possible, quoi, pendant tout le temps de l'enquête. Mais on se retrouvait face à des situations où des gens n'avaient rien dans, enfin, parfois rien dans leur dossier, mais qu'au moment de se défendre, au moment de passer au tribunal, là, le taf n'était pas fait de réfléchir ensemble à comment on se défend. Et c'était aussi un peu ça qui avait motivé ces rencontres-là.
D'accord. Bon, bah, écoute, on invite donc tous les gens qui nous écoutent de prendre contact avec vous. S'ils ne peuvent pas se déplacer à Toulouse ce week-end-là, eh bien, parce que Reims, Toulouse, c'est quand même loin, n'empêche qu'ils peuvent toujours vous contacter et sur votre site défensecollectivetoulouse.notblog.org. Ne vous inquiétez pas, si vous tapez sur Google « Défense collective Toulouse », je l'ai fait tout à l'heure, il n'y a pas de problème, vous l'avez en tête de gondole.
Et sur le blog, on a notre adresse email, donc s'il y a des...
D'accord,
des
ok. Mails,
moi, j'avais une dernière petite question pour savoir si vous aviez été au courant de la répression féroce qu'il y a eu à Bure, autour de la lutte de Bure. De la maison de la résistance, de l'occupation de la forêt, cette avalanche de d'inculpations, de condamnations justement, qui est tombée, la constitution d'un énorme dossier de malfaiteurs, en fait, puisque actuellement on peut considérer que c'est l'ensemble d'un mouvement complet qui est considéré comme des malfaiteurs, non pas comme un mouvement social, mais comme des malfaiteurs en fait. Et c'est un petit peu pour ça qu'il y a que l'État justifie ces condamnations, quoi.
C'est vrai qu'à Bure, il y a un acharnement judiciaire qui est assez impressionnant. Et avec le nombre d'associations de malfaiteurs, et effectivement, les gens, c'est des énormes dossiers qui c'est hyper compliqué. En plus, les gens sont quand même assez isolés. Il y a beaucoup de passages de gens qui passent, qui repartent, qui sont interdits, ouais. De meuse. Enfin, c'est vrai que c'est hyper compliqué, ouais. Et du coup, ici, on a moins le truc sur l'association malfaiteur. Il y en a quelques-unes après pour d'autres faits. Mais ce mouvement Gilets jaunes, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur de l'enquête avec les 40 enquêteurs qui enquêtent sur des faits qui sont déroulés en manif. Et ensuite, ils renvoient en comparution immédiate. Mais même, par exemple, il y a des gens qui ont été renvoyés en comparution immédiate pour association de malfaiteurs. Bon, les exemples qu'on a, l'association de malfaiteurs, elle est tombée. Il y a une relaxe prononcée là-dessus. Après, les gens sont condamnés sur des violences et avec des peines. La personne à laquelle je pensais, elle a pris un an et demi, dont un an ferme. Donc c'est pas les mêmes fonctionnements. Après, c'est clair qu'à Bure, il y a un côté où tout le monde est toujours sous loupe en permanence.
Oui, tout à fait.
C'est pas le même fonctionnement, mais c'est aussi un abattage judiciaire.
Eh bien, merci de ces précisions.
Oui. Écoute, vous voyez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas.
On est OK.
Vous êtes OK? Bon, ben, vous remercie bien.
OK, voilà. Okay. Venez à Toulouse. C'est le plus important.
OK, écoute, merci.
Merci beaucoup, merci. Salut.
Allez,
à bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir. Thank you.
Oui, alors samedi dernier, c'était l'acte 32 à Charleville. Un certain nombre de personnes qui sont ici y étaient. Ils vont pouvoir nous en parler pour voir un petit peu ce qui s'est passé. D'après ce qu'on a su quand on n'était pas sur Charleville même, que vous étiez pas énormément nombreux, 400 personnes, je crois. Par contre, j'ai vu les images, j'ai eu l'impression qu'il y en avait plus, je sais pas.
Ben, je sais pas, 400, peut-être 500 personnes. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que la ville de Charleville-Mézières était ville morte sur réquisition préfectorale, en quelque sorte. Moi, je présenterai les choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est un grand spectacle qui est organisé par la préfecture et par le préfet en particulier, qui, depuis des mois, fait des décrets d'interdiction de telle avenue, telle rue, etc. Et là, le périmètre s'est étendu énormément, puisque même la préfecture, même la place de Mézières était interdite, rigoureusement interdite, au point que les effectifs policiers divers et variés se sont déplacés eux aussi, n'avaient plus besoin de siéger à la préfecture, puisque tout était interdit. Et donc, on s'est retrouvé... Mézières, pour l'histoire, hein, c'est une ville où il y a une zone fortifiée, donc on arrive par le sud-ouest, on arrive par Manchester, là où il y a un hôpital, où il y a sûrement des urgences qui sont en grève, on y reviendra peut-être. Toujours est-il que dès qu'on quittait nos véhicules pour rejoindre la place de Mézières, eh ben celle-ci était rigoureusement interdite, tout le monde était fouillé systématiquement. On se serait cru quelque part un G7, un contre-G7, à Nice ou que sais-je. Mais non, c'était les manifs des Gilets jaunes. C'était une manif des Gilets jaunes. Alors, effectivement, de l'autre côté, avenue de Gaulle jusqu'à la gare, c'était également bloqué, puisque sous le pont de Gaulle de chemin de fer, il y avait des CRS et il y avait des baqueux. Et en fait, donc, la manifestation a pu se mouvoir dans un précaré, mais vraiment très limité, puisque c'était depuis la place de Mézières, de l'hôtel de ville de Mézières, qui est un lieu connue de beaucoup de manifestations, jusqu'à l'avenue de l'Arche, ça fait à peu près 1 kilomètre. Et en fait, dès que le cortège s'est mis en branle, avec ses banderoles du point de départ, on a eu les camions bleus, donc cette fois c'était garde mobile. Les gardes mobiles qui ont commencé à s'avancer. Donc ils ne nous ont pas pris en étau, hein, mais ils ont commencé à s'avancer derrière nous, assez loin quand même, mais c'est pour donner un petit peu l'ambiance, quoi. C'était extrêmement tendu. Donc il semblerait que la stratégie aussi désormais des flics, de la flicaille à Castaner, c'est de s'approprier immédiatement et le plus vite possible toutes les banderoles. Donc en fait, tout le monde avait été fouillé, il y avait rien, il y avait quelques pétards, mais bon, c'était vraiment dérisoire. Il y avait une banderole. Alors je voudrais parler de la banderole, parce que moi, elle m'a interpellé, cette banderole, parce qu'il y avait une banderole dont le premier slogan était « Ne vivons plus comme des esclaves ». C'était écrit en bleu, blanc, rouge et en jaune. Et après, l'autre petite phrase en exergue, c'était « force et honneur ». Il y a paradoxe dans ces deux phrases. Alors, pour juste rappeler, c'est quand même une phrase qui est tirée de la pièce « Des bonnes » de Jean Genet, hein, qui est un appel à la révolte, et qui a été reprise en Grèce par le mouvement de résistance à la situation qu'on connaît, que connaissent la population grecque et contre laquelle se battent des centaines de milliers de personnes et sont en lutte vraiment farouche. Et c'est le titre d'un film de Yanis Yuluntas, qui est un anarchiste franco-grec, qui fait des films alors qui valent ce qu'ils valent, hein, qui peuvent être critiqués, mais qui ont le mérite d'amener quand même des éléments sur la lutte qui se passe là-bas. Donc j'ai trouvé ça intéressant que ce soit repris sur une des banderoles. Ne vivons plus comme des esclaves. Mais par contre, le paradoxe, c'était en dessous, force et honneur. On a toujours du mal avec cette citation, que force et honneur, bon, ça coince un peu. Je sais pas d'où ça vient. C'est un slogan militaro ou quoi. Bon, bref. Juste, je voulais dire que jeudi de la semaine dernière, Yanis Yuluntas a été il a été blessé par des néo-nazis au Pirée, donc à Athènes, au port du Pirée. Il a été attaqué au couteau et il doit sa vie, à mon avis, au simple fait qu'il y a des gens qui sortaient du métro et qui ont pu, qui ont inquiété les agresseurs qui étaient à Troyes. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc voilà, je fais un lien entre deux choses. Hein, les films que fait Yanis Yuluntas, Je lutte donc je suis, L'amour et la révolution, et Ne vivons plus comme des esclaves, qui est une citation de Jean Genet à la base, qui avait inspiré les gens qui intervenaient dans un de ses films. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors cette banderole, effectivement, ainsi qu'une autre qui disait... il brise des vies. Nous brisons des vitrines. Où est la différence? Cherchez la différence. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont la première phrase à la bouche, c'est non, mais quand même, les vitrines. Et bon, on l'a dit à cette antenne, non, mais c'est bon, arrêtez de nous faire pleurer avec vos vitrines, quoi. Hein?
Il y a ce qu'il faut.
Voilà.
Ils ont ce qu'il faut.
Et donc les banderoles ont été arrachées. Elles ont été capturées et tous les gens qui étaient derrière ont été arrêtés. Il y a eu 13 arrestations au minimum et ça a déclenché les hostilités alors qu'il se passait rien du tout.
Bah non, parce que moi j'étais en train de boire et à ce moment-là d'un seul coup ma fille elle me dit vas-y vite. J'ai pas eu de temps, j'ai paniqué, j'en avais plein la bouche alors que je bougeais pas, j'étais pacifique. Alors quelque part quand on dit il y a des violences, mais c'est peut-être aussi aux forces de l'ordre d'arrêter de faire leur violence avant le démarrage.
Ah, mais attends, c'est comme
parce
ça.
Parce que quand on regarde bien, on bougeait pas. C'est pas comme si qu'on jetait des cailloux ou autre, parce que moi, c'est pas mon truc. De toute façon, je suis pas là pour ça. Mais quand on voit, on peut même pas faire un pas. Ils sont en train de nous bloquer partout. Mais plus ils bloqueront, plus les gens, ils seront de pire en pire, toi.
En fait, ils créent la situation. C'est eux qui c'est créent eux la qui situation. Provoquent... Et je crois même que la presse, parce qu'en fait, il y a un journaliste de FR3 qui était là, qui a dû plier bagages parce qu'il avait été gazé. Bon, ils sont pas très très courageux, hein, faut le dire. Ouais. Hein, mais ils auraient pu au moins faire.
C'est pas un journaliste de guerre.
Ouais. C'est pas un grand reporter, hein, le type. Hein. Mais bon, ils se sont barrés tout de suite. Et les gens qui disaient, je crois que même dans la presse écrite, il y a des gens qui ont dit que c'est parti comme ça. En vrille, mais non, il fallait faire des otages. En gros, il fallait que la police fasse des otages pour alimenter sa presse, là, l'Ardennais, qui, au passage, il faut le dire, l'Ardennais était le média qui était blindé, barricadé chez eux. Ils avaient mis des énormes plaques en bois.
Il a fait trois lettres à Castaner, tout ça. Il fallait bien qu'il justifie quand même 350 policiers pour arrêter 18 gentilles personnes.
C'est ça, exactement, ouais. Donc sur les 13 ou 14 personnes d'arrêtées, il faut citer qu'il y a une personne qui a été copieusement tabassée, dont on savait...
Ah, il avait la bouche en sang par contre, celui-là.
Ouais, dont les flics savaient très bien que cette personne avait des problèmes de santé assez lourds. Et ils disent qu'il y a eu 4 ou 5 personnes de relâchées pour questions médicales. Par contre, il y en a d'autres qui sont restées en garde à vue. Et il y a une personne qui est... qui est à cette heure, qui a été condamné en comparution immédiate, donc ça fait le lien avec ce dont on parlait avant, qui a pris 2 mois en comparution immédiate parce que, semble-t-il, je me méfie, hein.
Moi aussi.
Semble-t-il, il avait un sac rempli de cailloux, de pierres, de pavés, que sais-je, mais bon.
Oui, mais même avant les manifestations, c'est un gars qui avait déjà des cailloux sur lui.
Toujours.
Donc on voit bien qu'il n'est pas déjà bien dans sa tête. Je ne comprends même pas pourquoi ils en prêtent attention. Et ce n'est pas un gars qui fait de la violence. Hein. Je peux vous garantir, ce n'est pas un gars qui fait de la violence. Et moi, je pense que ça a démarré, c'est quand les pétards, ils arrivaient vers eux. Parce qu'il y a eu des pétards qui ont été lancés. Donc, ce n'est pas ceux qui ont lancé les pétards qui ont été pris, c'est ceux qui font rien, quoi. Donc après, moi, je trouve ça un peu inadmissible parce que même lancer de la crimo sur des gens qui font rien... j'aimerais bien qu'il y ait un peu de membres de leur famille et puis qu'ils voient un peu les réactions du sens opposé.
Ça va bientôt être le 14 juillet, là, il va y avoir des pétards.
Oui, voilà. C'est bon. Arrêter.
Les pétards seront interdits.
Et là, quand
juillet,
on voit.
Même autour de France, comment ils vont faire pour le jaune.
C'est pareil. C'est pareil. Après, ils ont été sur l'autoroute.
Alors, oui, voilà, justement, on va en venir
et
là.
Et là, nous, quand ils sont allés sur l'autoroute, on a des gens qui sont très pacifiques et qui font vraiment de mal à même pas une mouche, je pourrais dire. Qui sont vraiment pas là pour casser ou autre, qui se sont mis derrière, marchaient tranquillement. Et puis, il s'avère que le policier l'a insulté, la personne d'une certaine âge. Donc déjà là, je dirais aucun respect. Il a aucun respect, il l'a insulté. Et il lui dit, avance plus vite, sinon je te tape dans le cul et tout. Non, mais où va-t-on, quoi? Quelle vulgarité de leur... Et après, on dit, c'est les gens qui provoquent. Mais ils sont payés pour ça, mais ils n'ont encore pas leur prime. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, entre guillemets ?
Ouais, alors justement, je vais faire le lien. C'est qu'à un moment donné, dans ce précaré, on a été obligé de se replier, parce que sous les gaz lourds, de plus en plus lourds, on est passé par un pont de la Meuse, une petite passerelle de la Meuse. Et effectivement, là, la décision était prise d'aller vers l'autoroute. Il y a eu 2 blocages sur l'autoroute. Un qui était plus proche de l'entrée même de Charleville et un qui était en amont. Et ces deux barrages se sont rejoints au même endroit. Et là, après, de nouveau, il y a eu des charges de flics et les gens se sont repliés de nouveau vers le haut de la ville de Mézières. Et là, ensuite, on a bougé vers le quartier de Mohon, ce qui nous faisait prendre la direction de la Ronde Couture, qui est un quartier populaire très connu. C'est un quartier populaire de la ville, comme on pourrait dire Croix-Rouge à Reims. Là, je voulais le dire parce que c'est important. Il y a des gens qui sont venus vers nous avec bienveillance et qui nous ont dit que simplement qui nous ont signalé qu'il y avait une fête avec les enfants et que ça serait sympa de pas balancer de pétards que pour pas effrayer les gamins. Et donc ça a été bien pris. Et bon, dans la foulée, tout le monde a convergé vers la Ronde Couture. Il y a eu des petites petites explications parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient pas qu'on traverse la ronde couture parce que croyant qu'on allait les utiliser, mais bon, ça s'est expliqué. En fait, le cortège s'est pas attardé puisque là on était vers la fin. Par contre, les gardes mobiles ont suivi ou les CRS ont suivi, j'ai pas eu le temps de les voir. Et là, ils se sont fait accueillir effectivement par des pierres, ce qui est, je dirais,
logique.
Tout à fait logique.
Ils font que de provoquer. À force de provoquer, ils ont ce qu'ils ont. Je suis désolé.
Il y aura une question qu'il faudra se poser quand même. C'est que si demain, en manifestation, hypothétiquement, j'agresse un policier, il n'y a pas de brassard, ils n'ont pas de matricule. Qu'est-ce que j'en sais visuellement? Comme la loi, elle me dit normalement, il doit être. Je dois remarquer que c'est un policier de la banque, tout ça. Donc ça veut dire si je le tape, qu'est-ce que je risque pénalement? Parce qu'il n'a pas d'immatriculation, il n'a pas de brassard. Il n'y a rien qui me matraque. Mais je veux dire, je n'ai pas vu. Il n'y a rien qui me dit que c'est un policier. Il n'y a rien.
Oui, mais malheureusement, il y a eu des gens qui ont effectivement
été
accusés d'avoir frappé.
Je prends l'exemple du boxeur, il y avait un matricule. Oui. Et quand je vois la police de la BAC, il n'y a
rien.
Pas de matricule.
Ah bah par contre, à Charleville, il n'y a rien. Voilà. On croirait des robots.
C'est des bandits.
Franchement, ils ont des cagoules.
J'aimerais savoir au niveau de la loi, qu'est-ce que je risque.
C'est affolant.
Bah, tu risques beaucoup.
Ils
trouveront des excuses de toute façon, puisque nous, on n'arrive pas à en trouver pour eux, mais eux, par contre, ils nous en trouvent pas mal. Quoi. Ouais. Ils arrivent même à être blessés parfois. Hein.
Non, mais le problème de tout ça, c'est. Enfin, le problème, je ne sais pas, on l'a déjà évoqué dans cette émission, c'est l'État français qui a une stratégie de maintien de l'ordre. Hein. C'était un peu le thème de la semaine dernière. Hein. La stratégie de maintien de l'ordre est une stratégie à un degré sur l'échelle de Reichstag très, très élevé de violence.
C'est ça.
Hein. Faut rappeler quand même que quand l'État français réprime le FLN en France, il fait une centaine de morts de gens qui balancent dans le canal et dans la Seine. Des gens qui sont galvanisés par un papon, je crois que c'est le
c'est courrier,
par un papon qui leur dit si un d'entre nous est tué, il y en aura 10 qui y passeront. Et les gens, ils sont étranglés avec des câbles de Solex, je le répète. Hein. La personne qui a dénoncé ça pendant des années, voire des décennies, il est passé en procès, il a fini par gagner son procès pour dénoncer cette violence de l'État. Il n'y a pas eu que lui, il y a eu Maurice Rafchus aussi qui a dénoncé inlassablement toute sa vie la violence policière. Mais on est dans un pays où on a une escalade. C'est eux qui font l'escalade de la violence.
Oui, mais quand on repense à la dame là, que je vous parlais, là, qui était
à
calme
Nice.
Comme non, là, là, qui était calme comme tout là, ouais. Sur Charleville-Mézières, c'était la dernière avec son petit-fils. Ils ont essayé de l'attraper par le bras et le fait qu'ils n'arrivaient pas à l'attraper. Ils essayaient de la frapper et ils l'ont bombardé de bombes lacrymogènes. Mais comment on peut réagir comme ça sur une personne âgée? Ça pourrait être leur mère, leur grand-mère.
Ce qui est marrant, c'est j'arrive pas à comprendre. On demande plus d'humains et on se rend compte avec une police plus répressive.
Mais non, mais là, c'est une grand-mère.
C'est quand même marrant.
C'est une grand-mère quand même qui ferait pas de mal à personne. Non, alors pourquoi ils l'ont attrapé et il a fallu qu'elle se réfugie dans un petit jardin d'une dame. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, elle est affolée, quoi.
Bah, c'est peut-être le fait nouveau de la période, depuis ces 6 mois, c'est qu'il n'y a plus aucun discernement. Aucun discernement. Rappelons-le, la personne à Nice qui a été plus ou moins gravement blessée, mais rappelons-le aussi la personne à Marseille qui a été abattue à sa fenêtre, parce qu'elle voulait fermer ses volets.
Mais la dame à Reims qui est tombée, on n'en parle plus du tout, comme si qu'il rien passé du tout, on n'en parle même plus de seconde.
Voilà.
On oublie.
Ce sont des choses qui se banalisent, c'est-à-dire la violence d'État se banalise sur ce territoire, alors que dans d'autres pays, peut-être il s'est passé des choses importantes. Alors, je pense pas à l'Islande, je pense à la Norvège peut-être, ou je sais plus exactement, mais on parle de désescalade. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de matraque ils hésitent à utiliser les matraques parce qu'ils savent que non, s'il y a des matraques, ça va réagir de manière...
Mais là, après, le jour où ça va s'arrêter, gilets jaunes, comment on va les prendre face à nous après? On va peut-être pas les prendre de la même manière, je pense.
Certainement.
Parce que je pense que là, la violence qu'ils ont, franchement... Mais par contre, Charleville, ils sont plus violents que ceux de Reims. Hein. Franchement, je vais être honnête. Hein. Charleville, mais masqué jusqu'en haut, à pas voir leur identité, c'est grave quand même.
On en reparlera le 29.
Alors oui, et puis il y a aussi... ils n'accordent pas de légitimité à ce mouvement.
Du tout.
Ce pouvoir n'accorde pas de légitimité à ce mouvement. Ce pouvoir est déstabilisé, c'est un fait certain. Hein, je pense pas me tromper en disant ça. Et donc, la seule voie qu'ils trouvent, c'est la violence accrue, la violence donc policière, mais la violence judiciaire, dont on a ce qu'on a évoqué avant, comment y résister, puisqu'il y a même eu des directives émanant de l'État, les directives de Belloubet, la ministre, en direction des parquets, et en direction des juges, font que aujourd'hui les juges vont beaucoup plus loin que les réquisitions même des parquets. C'est ce qui s'est produit à Reims, lorsqu'un juge, le parquet demande 12 mois et la juge en donne 18. Simplement parce que justement la personne ou les personnes n'avaient pas fait un geste de contrition. Ah ben. On revient directement au sujet d'avant, de la première partie de l'émission. Ah oui, geste de contrition. Ben non. Non. Justement, on va être dans une défense de... Une autre défense où finalement votre justice, comment voulez-vous qu'on la reconnaisse? Tout le monde peut penser à la justice, à avoir une justice, mais franchement, on la cherche.
Ça fait longtemps.
On la cherche.
Écoute, sincèrement, ça fait.
On la cherche.
Je suis pas âgé, mais on l'a oublié avec toutes les histoires qu'il y a, les affaires qu'il y a depuis des années sur les hommes politiques, les hommes d'affaires. C'est fini la justice. Il y a deux justices. Il y a la justice du peuple, la nôtre.
Voilà,
on est condamné, on prend ferme, on prend des amendes, on paye cher. Et tu as la justice des riches, des Cahuzac, des Benalloges. Il y en a plein d'autres encore qui sont encore au pouvoir, tout ça. Et eux, par contre, il n'y a pas de souci. Ils ont toujours le droit de se représenter dans 5 ans. Ils ont toujours le droit de gérer des millions alors qu'ils en ont pris la moitié chez eux 6 mois avant. Mais ce n'est pas grave. On continue. Ils ne recommenceront plus.
Mais là, ça fait comme Olive. Parce qu'il annonce, voilà. Il annonce comme ça. Mais il ne fait rien, le gars. 60, ils ont été cherchés, 60.
Alors, Olive, c'est quelqu'un des Gilets jaunes
C'est un Gilet jaune.
C'est un Gilet jaune qui est de quel département
Je crois que lui, c'est justement, j'étais en train de chercher.
Sais qu'il était arrêté à Antibes.
Voilà.
Là, il est à la gendarmerie d'Antibes, là-bas.
D'accord.
Oui. 60, ils ont été cherchés, il faut arrêter.
C'est quelqu'un qui dénonce. Il fait juste dénoncer. Il dénonce. Voilà. Il dénonce.
Mais vous vous rendez compte comment on paye ces gens-là? 60. Ça fait comme nous quand on a eu la. Vous savez, comme nous quand ils nous ont démantelé la cabane, là. Mais ils étaient plus de 50, alors qu'entre-temps, il y avait des vols dans les pays. Là. Mais on va où, là?
On nous dit que nos manifestations, ça coûte cher avec la casse. Mais j'aimerais bien savoir combien que ça coûte, les tonnes de terre, les tonnes de pavés de béton qu'ils nous mettent, le nombre de policiers qui sont en train de nous surveiller, en train de boire un café, parce qu'on est 5 gilets jaunes à un rond-point, qui passent 8 heures. J'aimerais bien savoir tout ça, combien que ça coûte.
Non, mais c'est le gouvernement de la peur. Et le gouvernement qui assoit son pouvoir uniquement sur ces concepts-là, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, ils n'ont plus grand-chose à quoi se rattacher, raccrocher.
Leur stratégie, maintenant, c'est clair. Dès le début, ils interdisent de manifester. C'est-à-dire que tu as eu, au départ, des tas de contrôles avant, qui existent toujours, ces contrôles. Tu pouvais encore être ensemble pour commencer la manif, sans que les flics interviennent. Maintenant, ça s'est vu X fois que les flics interviennent dès le début pour t'empêcher de manifester.
Ah, mais la manifestation n'a jamais été interdite par la loi.
Oui, mais attention, donc après, elle n'était pas déclarée. Donc
tu peux
pas interdire.
Oui, non, mais c'est sûr, mais quelque part.
Déclarer la manifestation à Reims, j'aimerais savoir si on me laisse faire le parcours. J'ai un gros doute.
Ce sera la même chose.
J'ai un gros doute.
C'est sûr.
J'ai un très...
En fait, le protocole, c'est que si les gens déclarent, ils sont considérés comme responsables du
parcours. Bien sûr.
Donc ça peut
te coûter cher.
C'est vachement délicat. C'est très, très délicat. Ça veut dire que toi, tu es responsable du parcours, donc tu es obligé de faire respecter. Et on va te dire, non, mais je sais comment ça se passe, parce qu'il y a quelqu'un qui a organisé, juste après la manif de Reims, une manifestation avec par rapport au climat. Et ils se sont retrouvés à la préfecture et on leur a dit, mais vous avez un service d'ordre et vous allez mettre tous des brassards comme ça et vous allez être tous en contact avec le responsable des manifestations publiques qui sera là en permanence autour de vous. Et dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un gilet jaune qui pénètre dans votre rassemblement, vous nous le signalez. Et la personne a dit, mais non. Elle était sur ce plateau, d'ailleurs, il y a peu de temps avant. Elle a dit, mais non, moi, je ne mange pas de ce pain-là, moi. Il est hors de question que je fasse ça. Et donc, elle expliquait. Donc, avant qu'on coupe, on va quand même parler de la mobilisation de la semaine prochaine, samedi prochain. Parce qu'il y a un appel qui a été lancé.
Bah oui, on ne sait pas par qui, mais voilà, il y a une manifestation quand même le 29.
Alors, comment... on n'en sait pas.
C'est un peu dangereux quand même pour le mouvement. Parce que ce n'est pas vous qui le lancez.
Non, pas du tout.
Ça a lieu ici. Et c'est dangereux. Dangereux dans ce sens que ça peut être... parce qu'il y a une belle manifestation en mai où il y avait quand même 2000 personnes.
Mm. Oui.
Comptabilisées, 2000 personnes dans la rue. Là, malheureusement, j'ai quand même l'impression qu'il peut y en avoir 10 fois moins. Et là, t'en prends plein la gueule. Hein.
Oui, non, mais c'est sûr.
Tout à fait.
Parce qu'on ne sait pas qui sera là, qui ne sera pas là, ça c'est sûr.
Bien sûr, hein. Puisque ce n'est pas vous, Gilets jaunes de Reims, qui lancez ce truc-là.
Ça pose quand même le problème, ça pose quand même un problème qui n'a jamais été résolu pour le moment, c'est que de créer des assemblées avec des gens qui s'organisent et qui décident entre elles. Oui. Des personnes qui s'organisent et qui décident entre elles. Ça, c'est fondamental. Ça permet aussi de démasquer les gens qui sont vraiment douteux, quoi, parce que ça existe aussi.
Oui. Ah, puis il y a des infiltrés, quand même.
Voilà. Oui. Moi, je pense que à Reims, c'est ça qui manque.
Ouais. Donc, ça, ce que nous, on pourrait dire, c'est ça. Hein. Il faut absolument. On a besoin d'une assemblée de gens qui...
Parce que
simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est. Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'était Eric Gore, chaque semaine sur les Goligari à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local, à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.